Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Joséphine Baker, de la Vénus noire à l'honorable espionne. Une photo prise en 1948 montre Joséphine Baker en uniforme de l'armée française. Un uniforme d'homme, sans doute, mais qu'elle porte avec une telle élégance, une telle classe. Le calot posé de travers sur la tête, les bras croisés qui laissent voir ses ongles vernis, Joséphine Baker assume sa séduction tout en arborant fièrement sur sa poitrine la médaille de la Résistance. En 1961, une autre photo montre la même Joséphine Baker qui vient de recevoir la Légion d'honneur et la Croix de guerre dans son château des Milandes en Dordogne. Ce château où, pendant l'occupation, cette afro-américaine devenue française collectait des renseignements et cachait des armes. On a du mal à imaginer que cette femme au sourire éclatant, qui croule sous les décorations, fut en 1925 la danseuse géniale qui fit scandale dans la Revue Nègre au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. La jeune américaine du Missouri, qui pour satisfaire l'exotisme d'une Afrique fantasmée, dansait quasiment nue, une ceinture de banane autour de la taille, en roulant malicieusement des yeux. La Joséphine Baker qui entrera après-demain au Panthéon, c'est tout cela à la fois. La femme libre, la résistante, mais aussi l'artiste de music-hall et la combattante contre le racisme et l'antisémitisme qui rêvait d'une fraternité universelle.
France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire.
Anna Diamond, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, professeure à l'université de Cardiff, au Pays de Galles, où vous enseignez l'histoire de la France, en particulier la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous connaissez bien Joséphine Baker, puisque vous préparez actuellement un livre, vous travaillez activement à l'écriture de ce livre sur son activité pendant la guerre. Alors, pour quelle raison d'abord, par quel chemin, vous, historienne anglaise, vous êtes-vous intéressée à la franco-américaine Joséphine Baker?
Ben, au départ, j'ai été demandée de faire un travail de recherche sur cette époque de la vie de Joséphine Baker. Et pour faire ce travail-là, j'ai été étonnée par le manque d'œuvres scientifiques sur le sujet.
Oui, c'est vrai, il n'y a rien.
Donc, je me suis dit, j'étais curieuse d'en savoir plus. Moi, je suis historienne de la Résistance, surtout l'histoire des femmes. Et c'est assez courant que relativement récemment, on travaille pour vraiment montrer ce qui a été fait par les femmes dans la Résistance. Également, elle était étrangère. Et c'est la même chose. Et on est en train de vraiment regarder de beaucoup plus près la contribution des étrangers à la Résistance française.
Un beau travail. Mais nous en reparlerons avec vous donc en deuxième partie d'émission, Anna Diamond, car c'est à l'artiste que j'ai voulu consacrer notre fiction. Mais avant, pourriez-vous nous rappeler qui est la jeune inconnue donc qui débarque en France en 1925, qui s'apprête à enflammer le public du Théâtre des Champs-Élysées dans la Revue Nègre? Quelle a été son enfance?
Ben, Frida Joséphine MacDonald.
Oui, c'est son vrai nom.
Son vrai nom, donc, est née en 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, donc c'est dans l'Amérique, le sud de l'Amérique vraiment profonde. Et elle vient d'un milieu vraiment très, très modeste. Mm-hmm. Elle est métissée, elle vient de parents, ça dépend quelles sont les œuvres exactes qu'on lit sur Joséphine, mais elle a des origines
diverses.
Divers. Elle commence avec des difficultés, vraiment, de subvenir à ses besoins.
Parce qu'elle doit travailler très jeune, elle va à l'école, mais en même temps, elle doit travailler pour aider sa famille.
Voilà. Mais elle est très attirée par la musique et par la danse.
Oui, elle danse tout le temps.
Et elle apprend à danser à la rue, dans la rue. Et elle se fait remarquer. Et donc, elle commence à avoir un petit peu de succès dans le vaudeville américaine. Et elle fait un peu le clown aussi. C'est elle qui quitte la scène en dernière. Elle louche, elle fait rigoler les gens.
Ouais, elle a un talent comique.
Oui. Et à l'époque, elle se fait embaucher par une troupe de danseuses noires à New York. Et c'est là où elle se fait remarquer par Caroline Dudley, qui cherche des danseurs à emmener à Paris pour cette nouvelle revue qu'elle va mettre en scène, la revue Nègre.
Voilà, elle est très jeune en fait à ce moment-là, quand elle part en France, elle a 19 ans je crois.
Oui, elle est très très jeune et elle est très attirée par l'idée de vivre autre chose, elle a le goût du voyage et de voir un petit peu comment ça va se passer.
Est-ce que dans son milieu d'origine, donc dans sa famille, elle a dû subir le racisme? On est quand même dans le sud ségrégationniste
oui,
des États-Unis.
C'est clair que les milieux d'où elle vient souffrent terriblement de la ségrégation. Il y a aussi eu des problèmes, des émeutes de Saint-Louis. Elle était très consciente de la situation où elle se trouvait, dans l'inégalité avec les blancs américains.
Oui, la ségrégation. Anna Diamond, on poursuit tout à l'heure cette discussion, si vous voulez bien, tout de suite. Joséphine Baker, de la Vénus noire à l'honorable espionne, un texte de Pascal Memery, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Aussire.
So, this is Paris. Me voilà arrivée, moi, la petite fille du Missouri. Les gens n'ont pas l'air de me voir. On s'embrasse comme ça ici, sur la bouche, devant tout le monde. Et sur ce magazine, une femme nue. Oh my God! Et ce monsieur blanc là-bas, à qui fait-il son sourire? À moi? Alors c'est vrai, ici pas de discrimination, pas de ségrégation. Je serre mon petite patte de lapin au fond de ma poche et je fais ce vœu. Mon Dieu, si vous m'aidez à trouver mon chemin en France, ça voudra dire que tous les autres noirs du monde peuvent aussi y arriver.
Joséphine, Mademoiselle Baker!
Je jure de les aider et aussi, si je peux, aider la France.
Mademoiselle Baker!
I'm coming! Coming!
Septembre 1925. À Cherbourg, à peine débarqués du paquebot Le Bérangaria, les 25 artistes noirs américains de la Revue Nègre arrivent quelques heures plus tard, gare Saint-Lazare, à Paris. Sous la houlette de Miss Caroline Dudley, leur productrice, la joyeuse troupe, composée de danseurs et de musiciens, récupère bagages et instruments de musique. Parmi eux, Joséphine Baker, salopette à gros carreaux noirs et blancs, coiffée d'un extravagant chapeau garni de plumes, est la plus jeune, elle n'a pas 20 ans. Paul Collin, décorateur et affichiste du spectacle, est venu les accueillir. Il les emmène au Théâtre des Champs-Élysées, où les attend André Davenne, son directeur. Ses affaires vont mal, et Davenne joue gros sur cette revue entièrement noire. Mais à 3 jours de la première, la répétition générale tourne court.
On s'emmerde. On va à la catastrophe, Paul. Avoue que c'est sinistre.
Tu exagères. Ils sont tous excellents. Sidney Bechet, le clarinettiste. Tous les cuivres sont extraordinaires. Et les danseurs, elles, là-bas.
Oui, ben on voit qu'elles. Pourquoi elle est aussi noire? En principe, les girls sont presque blanches, non?
Elle s'appelle Joséphine Baker. C'est la protégée de Miss Dudley. Regarde. Tu vas voir l'énergumène. Oh. C'est mon tableau préféré. La danse sauvage. On dirait qu'elle piétine la musique. Elle en fait qu'à sa tête. C'est son corps qui mène le jeu, les saxos, la clarinette, tout! Quelle liberté.
Et cette musique, c'est quoi?
C'est nouveau, le Charleston.
Complètement fou.
C'est fou, non?
Regarde ses grimaces. Non, elle louche. À la fois suggestive et comique. Jamais vu ça. Le clou du spectacle, c'est elle. On change tout, Paul. Je la veux sur l'affiche.
Changer quoi?
Tout. Les costumes, on les vire. Je veux des plumes. Des plumes et du Charleston. Ça manque d'exotisme, de sauvagerie. Trop américain, trop aseptisé. Où est l'Afrique? Tu veux me dire? L'érotisme. la sensualité. Bon, il ne reste que 2 jours. Elle, faut la déshabiller. Elle a un corps sublime, on le voit pas.
Pas sûr qu'elle accepte.
Ouais, elle aura pas le choix. S'il vous plaît, on fait une petite pause. Est-ce que je pourrais vous voir, vous, là-bas? Vous parlez, mademoiselle Baker.
Moi?
Oui, mademoiselle, venez nous rejoindre.
Un problème, monsieur?
Non, non, au contraire, on va aller dans mon bureau. Vous venez, Paul? Bref, nous avons été subjugués par le côté à la fois très humain et très animal de votre art, mademoiselle Baker. De votre grand art.
Subjugués?
Fascinés. Éblouis. Vous comprenez?
Il faut donner à rêver et à rire aussi. J'aime faire les deux. Je danse avec mon instinct, j'essaie de réussir ça.
Vous le faites à merveille, mais je pense qu'on pourrait aller plus loin.
Vous voulez plus de grimaces?
Non, 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 les grimaces, ça suffit comme ça. D'ailleurs, pourquoi tant de grimaces?
J'aime bien moquer mon personnage. Understand? Je moque, mais avec gentillesse. Et aussi, j'ai besoin que mon visage danse avec le corps.
Vous faites ça avec infiniment d'humour et de grâce, Miss Baker.
Bref, tout ça manque quand même d'un petit quelque chose.
Un petit quelque chose?
On est encore trop sage. Beaucoup trop sage. Paul.
André aimerait que le public sente davantage la sensualité. Le côté sauvage, primitif.
Primitif?
Nous voulons du rêve. L'exotisme, la jungle en un mot. La sensualité, la sauvagerie de l'Afrique. Comprenez-vous?
Mais nous sommes des Noirs américains. Nous ne venons pas de la jungle. J'ai grandi à Saint-Louis, Missouri, au pied des usines, et mes amis dans le ghetto d'Harlem.
Faites un effort, mademoiselle Baker. Je vais être cash. Je veux que vous dansiez dévêtue, avec quelques accessoires, naturellement, des colliers, des plumes. C'est pas compliqué.
Je ne suis pas une stripteaseuse. Je suis une danseuse et une clown aussi.
Ne partez pas, Joséphine. André est un grand directeur artistique. Il déteste la vulgarité. Il veut un spectacle exceptionnel, élégant, raffiné. Vous incarnez les trois, Joséphine. Le nu n'est pas vulgaire. Il est célébré depuis toujours par les artistes et les plus grands. Le nu, c'est la beauté.
C'est une occasion inespérée dans la vie d'une danseuse, croyez-moi. Demain, vous serez l'icône du tout Paris. Je ne me trompe jamais, mademoiselle Baker.
Quand je suis rentrée dans mon pension de famille, j'avais si honte. J'étais si déçue. Et puis, j'ai pris le petit dictionnaire que nous a offert Miss Dudley et j'ai regardé Icône. C'est une peinture religieuse. Ça m'a rassurée. Comment refuser? À Harlem, je gagnais seulement $50 par soir. Ici, 250. J'ai promis à ma mère de lui envoyer de l'argent. Revenir à Harlem? Non, c'est impossible. Comme tous les soirs, je vais prier pour que Dieu me vienne en aide. Ne plus avoir honte. Plus jamais.
Joséphine Baker est en train d'ouvrir douloureusement les yeux sur les préjugés de l'époque. Les amalgames entre Noirs d'Afrique et d'Amérique, le mélange nauséabond de fantasmes sexuels blancs inavoués, les relents d'un colonialisme de carton-pâte avec lesquels elle va devoir composer. Toute la complexité et les ambiguïtés de cette folie noire qui s'empare de ces années 20. Intelligente, intuitive, elle va tenter de les apprivoiser, de les contourner avant de parvenir à en jouer à sa manière, unique. Sa pudeur et sa foi religieuse ne l'empêchent pas d'avoir déjà une expérience solide de la vie et des hommes. Elle se rend, le lendemain, dans l'atelier de l'affichiste Paul Collin pour sa première séance de pose. Elle arrive en robe rouge et chaussures vertes, des aigrettes sur la tête. Colin en est tout retourné et s'efforce de le dissimuler.
Bravo. Bravo. Et merci, Joséphine. Merci. Comment vous dire? C'est...
Je danserai toute ma vie. Vivre, c'est danser et j'aimerais mourir comme maintenant. Épuisée, plus de souffle à la fin d'une danse... Tomber comme ça, pouf! J'espère que c'était assez sauvage. Où est ma robe?
Ah, merci. Je voulais partir au début. C'est très dur de déshabiller devant un inconnu et dans un endroit comme ça. Et puis tout à coup, j'ai compris.
Qu'avez-vous compris, Joséphine ?
Qu'on pouvait danser nu et garder sa pudeur. Vous m'avez aidée.
Moi ?
Oui, vous. Je ne suis pas à l'aise avec Monsieur Davin. Je n'ai pas tout dit hier. Mais avec vous, je peux parler.
Je vous écoute.
Mes grimaces sur scène, c'est pour moquer ce personnage de femme exotique et sexy qui doit absolument plaire au public blanc. Moquer, c'est ma liberté à moi, vous comprenez ?
Oui.
Et puis, les grimaces, ça met la distance avec les hommes. Ils ont un peu peur.
Oh, pas tous, mademoiselle Baker. Pas tous. Hein.
Vraiment ?
Oui.
J'aime bien comme vous me regardez quand vous dessinez. En dansant dans vos yeux, je prends confiance. Je me trouve belle. C'est la première fois. It's funny, right? Vous ne dites rien?
C'est que... Excusez-moi. Vous n'avez pas l'air de vous rendre très bien compte, mademoiselle Baker, mais vous êtes un être tout à fait aussi exceptionnel qu'irrésistible.
Alors pourquoi vous résistez?
Ouais, mais que... Qu'est-ce que vous faites, Joséphine?
Je déshabille vous, monsieur Colin.
Au théâtre des Champs-Élysées, le 25 octobre 1925, soir de la première de la Revue Nègre, le rideau se lève sur un port au loin. La nuit, les girls, coiffées de madras, chantent une petite chanson quand retentit l'air endiablé d'un charleston et qu'entre en scène un personnage étrange, vêtu d'un caleçon en guenilles, qui tient du kangourou boxeur, du chewing-gum et du coureur cycliste. Joséphine louche, gonfle ses joues, se désarticule, fait le grand écart, part à quatre pattes, les jambes raides et le derrière plus haut que la tête. Dans le tableau « La danse sauvage », exécutée avec son partenaire Joe Alex, son apparition, seulement vêtue d'une ceinture et d'un collier, tous deux en plumes, achève de dynamiter tous les codes de la bienséance. Dans le public, soit on ovationne, soit on claque les portes. En une soirée, Paris est coupé en deux. Artistes, écrivains et autres célébrités viennent, eux, de trouver leur muse, leur perle noire, leur Vénus d'ébène. Ils entraînent Joséphine dans les nuits folles de ces années folles. Le lendemain matin...
Oh. Excusez-moi, Marcel, mais quand je suis rentrée, il faisait déjà jour. Oh. Vous n'avez pas vu mes pantoufles ?
Voilà. Ah.
Merci. Vous savez que c'est votre nom qui m'a décidé à accepter votre proposition. S'appeler Marcel Sauvage et vouloir écrire les mémoires d'une négresse, c'est fou, non?
Vous m'avez d'ailleurs rayonné le premier jour. Rappelez-vous.
Écrire les mémoires d'une danseuse qui n'a pas 20 ans, c'est un peu fou pour un journaliste. Mais vous êtes un peu fou, un peu poète aussi. Au travail, je suis prête. Qu'allez-vous me demander aujourd'hui?
Vous ne commandez pas votre plat de spaghettis ?
Non, pas ce matin. Je m'oblige. J'adore trop les spaghettis. Que voulez-vous savoir aujourd'hui ?
Depuis tous ces mois où je vous rends visite, nous n'avons jamais parlé de votre enfance. Vous m'en diriez quelques mots ?
L'enfance d'un noir en Amérique, c'est toujours un peu triste. Maman était noire. Papa était blanc. Tante Elvara était indienne. Pour ma mère, je n'étais pas assez noire, mais pour les autres de la famille, ça allait. Il faisait froid à Saint-Louis. La maison de Berner Street était si froide, avec du carton sur les fenêtres. On dormait par terre. Je crois que j'ai appris à danser pour me réchauffer.
Et la danse ?
Oh, j'ai commencé très petite. Je faisais des spectacles dans la cave à la maison. J'invitais les voisins. Je faisais les lumières, tout. Après, je dansais dans la rue comme tous les noirs à Saint-Louis, mais impossible de gagner ma vie. Trop jeune, trop petite, trop maigre, trop noire. J'ai appris toutes les danses de rue, même celles des jambes en caoutchouc.
C'est quoi ça?
Il faut que les jambes bougent comme du chewing-gum. Je vous montrerai un jour.
Racontez-moi ce que vous avez fait hier soir. J'adore les potins. Avec qui êtes-vous allé traîner? Picasso, Hemingway, Cocteau, Man Ray?
Et aussi un jeune romancier, Georges Simenon. Il écrit des romans policiers en 3 jours. Il y avait mon amie Colette aussi, bien sûr. Ils sont tous si drôles et si intelligents. Une chose m'étonne, monsieur Sauvage.
Je vous écoute.
Pourquoi les hommes ici à Paris me comblent de cadeaux, de bouquets, de bijoux? Moi, ce que je veux, c'est de faire une famille un jour. Avoir un mari et des enfants, beaucoup d'enfants, vous voyez?
Vous n'avez pas 20 ans, Joséphine.
J'ai besoin de me sentir protégée. Je n'aime pas la solitude, alors là, pas du tout.
Vous partez bientôt en tournée. Vous allez voyager, faire des rencontres, revenir encore plus adulée qu'aujourd'hui.
Oui, je suis si heureuse de découvrir l'Europe.
Mais en Allemagne et en Autriche, l'accueil du public est de plus en plus hostile envers cette femme noire, jugée scandaleuse, voire obscène. Aussi, du jour au lendemain, Joséphine troque-t-elle son costume pour une élégante robe du soir et la presse internationale aussitôt de l'encenser. Paul Derval, le patron des Folies Bergères, lui propose alors de devenir la vedette de sa prochaine revue. Il lui laisse carte blanche. Elle rompt à regret son contrat avec Caroline Dudley et choisit de reprendre sa danse sauvage, mais seule cette fois, et avec une étonnante ceinture de banane dessinée pour elle par Paul Collin. Son entrée en scène, tel un diable, va marquer tous les esprits. Un soir de 1926, aux Hélices, une boîte de nuit de Montmartre tenue par un Américain, un homme séduisant, la trentaine, portant monocle, l'aborde. Il a 8 ans de plus qu'elle et à son actif une solide réputation de gigolo.
Conte Giuseppe Abbattino. M'accorderiez-vous ce tango, mademoiselle Baker?
Merci, non. J'ai dansé toute la soirée.
Je me permets d'insister. Je vais vous guider. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de tenir Joséphine Baker dans ses bras.
Oh.
Je vois tous vos spectacles.
Vous dansez le tango comme personne. Monsieur...
Appelez-moi Pepito. Tout le monde m'appelle comme ça. Je descends d'une vieille famille de Sardaigne. C'est un tango caniengue, mon préféré. Un peu canaille, vous remarquez? Les partenaires sont très proches.
On peut même dire qu'ils sont collés. Ce n'est pas indiscret de vous demander ce que vous faites dans la vie.
J'ai exercé tous les métiers de la terre. J'ai servi dans l'armée comme officier de cavalerie. Puis j'ai embrassé la carrière de diplomate. Mais ma vie n'est pas faite pour la paperasserie et tous ces cocktails m'ennuyaient. J'aime l'action. J'ai de grands projets pour vous, mademoiselle Baker. Je veux devenir votre impresario. J'ai le sens du marketing. Des affaires, si vous préférez. À nous le cinéma, la chanson, l'opérette, pourquoi pas. Je vous emmènerai haut, tout en haut. Au sommet du grand escalier, au casino de Paris. Ça vous fait rire? Vous devez commencer par quitter votre petite pension du parc Monceau.
Mais comment vous savez?
Et vous achetez une maison dans un coin chic. Vous dépensez des fortunes tous les soirs, mais si vous aviez votre propre cabaret, chez Joséphine, ça ne vous coûterait rien. Et tout Paris courrait s'y ruiner. Je sais que vous aimez les animaux. Imaginez une grande maison, avec un jardin où vous pourriez mettre tous les animaux de la terre. Je serai là pour vous, rien que pour vous. Je vous protégerai de tout et de tous.
Oh, j'ai la tête qui tourne. Si on allait s'asseoir. Une question. Vous savez cuisiner les spaghettis, monsieur Pepito?
L'imagination de Pepito en matière de marketing ne connaît pas de limite. Dans les mois qui suivent, il va créer toute une gamme de produits cosmétiques. Le Baker Fix, la Baker Cream, la mode Baker est lancée. Adieu corset et poudre de riz, les femmes alors se coupent les cheveux, les laques de gel, se font bronzer et se mettent au sport. Les amis de Joséphine ont beau la mettre en garde contre ce Pepito, rien n'y fait. Le couple ouvre un cabaret à Montmartre. L'argent rentre à flot et Pepito, fidèle à ses promesses, décroche peu après le Pactole, le casino de Paris.
Joséphine y sera vedette et meneuse de revue. Dans des décors somptueux célébrant l'empire colonial, Henri Varnat, le directeur, n'a pas lésiné. Dans certains tableaux, elle tiendra en laisse un guépard. Le 26 septembre 1930, jour de la première, pas d'incident avec le fauve dans la première partie. Mais il lui reste à relever le second défi, chanter.
Hier encore, je n'étais qu'une attraction nue et muette. Ici, fini les plumes et la nudité. Me voilà vedette de musical. Personne ne pense que j'ai l'étoffe d'une chanteuse. Tout le monde m'attend au tournant. Descendre l'escalier de Mistinguette, moi ? Elle m'appelle partout la négrillonne. Sa voix est bien meilleure que la mienne. C'est à moi. Ce final qui me fait si peur. Pourvu que je ne me trompe pas. Pourvu que je tienne ces vocalises. Elles sont si difficiles. Je me jette dans le vide.
J'ai deux amours, mon pays et Paris, par toujours, mon cœur est ravi.
Cet hymne d'amour de Joséphine Baker à son pays d'adoption va droit au cœur du public et à celui de la critique, unanime pour la première fois. D'anciens détracteurs écrivent aimablement « Nous avons laissé partir une gentille négresse, cocasse et primitive. C'est une artiste, une grande artiste qui nous revient, une diva noire. » Pépito, jamais en reste pour faire parler d'elle, lui apprend à multiplier frasques et excentricités. Le couple se met à mener grand train. Bugatti, Packard, autant de voitures de luxe dont Pépito raffole. Puis, ils achètent le domaine de Beauchesne, au Vésinet, une banlieue chic, où l'artiste pourra accueillir tous ses animaux de compagnie. Chiquita, le guépard, fait également partie du déménagement.
My dear Marcel, comme c'est gentil de venir me voir dans mon bicoque. Oh,
bicoque, bicoque, comme vous y allez. Ah, c'est magnifique. Ça nous change un peu de la petite pension du parc Monceau. Ah,
je n'aurais jamais pu y amener Chiquita.
Chiquita est ici.
Si vous voyez votre tête. N'ayez pas peur. Il est enfermé, c'est l'heure de sa sieste. Reposez-vous un peu et je vous montre mes choux, mes poux, mes lapins, ma chèvre toutoute, le cochon et mes deux Pékinois. Ils sont tellement plus heureux ici. Bon. Vous venez pour le travail ou pour l'amitié?
Les deux, vous le savez bien. De toute façon, vous ne pouvez pas travailler sans amitié. Je me trompe?
Impossible. C'est si difficile d'être une vedette. Tout ce qu'on doit faire, accepter, supporter.
Est-ce que l'argent vous console un peu?
Mon argent, je le claque, monsieur Sauvage, et je le donne beaucoup. Les œuvres de bienfaisance, les petits orphelins, toutes les causes souvent perdues. La souffrance des gens n'est pas supportable pour moi. Pépito me le reproche souvent. Il dit qu'on n'est pas l'armée du salut. Moi, si. Il me surveille tout le temps. Il me reproche beaucoup de choses. En fait, entre nous, il y a de l'eau dans le gaz. C'est comme ça qu'on dit. Vous ne l'écrirez pas dans vos mémoires, n'est-ce pas?
Non, promis.
Il n'est pas plus compte que vous et moi, ça. Je l'ai su dès le premier jour. Ça m'était égal. On est pareils tous les deux. On vient de tout en bas, alors on se raconte des histoires, des rêves pour mieux vivre. Il fait beaucoup pour moi. Il veut même que je fasse du cinéma. J'y essaie, mais sans le public, je me sens perdue. Il veut toujours que j'aille plus loin, plus haut. Mais il faut vivre aussi. Aimer. Il m'arrive d'être dur, injuste, infidèle. C'est la première fois que je vous parle de ma vie privée, non? Je suis très pudique.
Votre pudeur de petite sauvageonne du Missouri.
Vous me connaissez bien. Avec tout ça, j'oublie de vous annoncer la grande nouvelle. Nous partons en tournée, puis à New York, grâce à Pépito. un contrat avec les Ziegfeld Follies. Il paraît qu'il rêvait d'avoir Josephine Baker. Il pensait que j'allais refuser. Il n'osait pas me demander. C'est fou. Pepito me dit que New York est devenu merveilleux. Un endroit nouveau et très accueillant. Il me voit déjà à Hollywood.
Ces mois de tournée s'avèrent éprouvants. En ce début des années 30, dans une Europe dévastée par la crise économique et l'essor des dictatures, le racisme gagne du terrain. L'accueil de la revue est partout plus mitigé et le temps des années folles semble bien révolu. Cette série d'épreuves atteint l'artiste de plein fouet. Aussi, Pepito s'emploie-t-il à rassurer Joséphine. L'Amérique trépigne, la réclame à corps et à cri, assure-t-il. Mais à leur arrivée en décembre 1935...
Cher Marcel, depuis que nous sommes à New York, je vis en enfer. À notre arrivée dans le palace, le directeur me fait des courbettes, puis il me demande très poliment d'emprunter l'entrée du service. Et aussi, de ne pas me montrer dans le hall. J'ai gardé mon calme. L'État de New York est dans l'Union et n'est plus soumis à la ségrégation. Savez-vous ce qu'il m'a répondu ? Qu'il avait de nombreux clients des États du Sud et qu'il ne pouvait pas se permettre de risquer de les offusquer. No blacks, no negroes, no niggers. Rien n'a changé. Chaque journée apporte son lot de mauvaises nouvelles. Je ne suis que quatrième sur l'affiche. Je danse 15 minutes pour 3 passages. Aujourd'hui, on a supprimé les 5 boys qui devaient danser à mes pieds. Ici, on ne rampe pas aux pieds d'une femme noire. C'est ça, la vérité. J'en veux terriblement à Pepito. La première a lieu ce soir et je voudrais mourir.
Et ce ne sont pas les critiques dans les journaux du lendemain qui vont apaiser Joséphine Baker. Bien au contraire. Hors d'elle, journaux au point, elle se précipite dans la chambre de Pepito.
Tu es encore au lit ? Lève-toi. Tu n'as pas lu les journaux ? Tu devrais. Lis.
Je ne me sens pas très bien. Le ventre, j'ai mal.
Lis. Lis à voix haute.
Joséphine, je t'en prie, je n'ai pas dormi de la nuit.
Lis là.
Je n'aime pas Joséphine Baker.
Et ici ?
Je n'ai pas compris un mot de ce qu'elle chante. On devrait peut-être appeler un médecin.
On n'a pas fini, Pepito. Lis ça jusqu'au bout.
Joséphine Baker est la fille d'une blanchisseuse de Saint-Louis. Les Européens blasés qui se sont épris de jazz trouvent toujours beaucoup plus de sex appeal aux jeunes noirs qu'aux filles de leur pays. C'est ignoble. Donne-moi un peu d'eau, Joséphine.
Mais pour le public des théâtres du Manhattan hier soir, elle n'était qu'une jeune femme à la peau noire et aux dents de lapin comme on peut en voir sur la scène de n'importe quel cabaret. Comment as-tu pu accepter de signer ces contrats de merde ? Et qu'est-ce qui t'a pris d'organiser cette claque hier soir sans m'en parler ? Lis encore. On ne dupe pas les critiques avec du tapage. J'en ai marre de toi, Pepito. J'en peux plus de toi, de tes Baker Fix, Baker Crème, Baker Shit. Marre de ces gros porcs qui puent et que je chatouille tous les soirs à Paris. Marre de cette vie. Tu n'es rien, un pauvre type, un mythomane. Mes amis m'avaient prévenu, j'aurais dû les écouter.
Les temps ont changé, Jo. C'est la mode du swing maintenant, mais tous les deux nous allons rebondir comme d'habitude. Tu as demandé le divorce à Baker, il est d'accord. On va pouvoir se marier, avoir des enfants, tous les enfants que tu veux, Jo.
Se marier ? Avec toi ? Qui voudrait avoir des enfants avec toi ? Regarde-toi, on dirait un vieillard. Tu me dégoûtes.
Mais où tu vas ?
Rejoindre Georges Siménon dans sa chambre à Harlem. Je le vois tous les jours depuis que nous sommes à New York.
Si tu fais ça, je rentre à Paris et tout est fini, Jo.
Bon voyage.
À New York, voyez-vous, Monsieur Sauvage, ils n'ont jugé que l'artiste noir et franchisé. Le plus douloureux pour moi, c'est que les Noirs ont pensé avec les mêmes préjugés que les Blancs. Un seul journaliste de Harlem m'a défendu. Lui seul a compris qu'en me mêlant aux Blancs,
Je ne me flattais pas de mon ascension sociale, mais au contraire. Simplement, j'essayais de vivre comme si toutes les races n'en faisaient qu'une. Il a dit que j'étais une héroïne de la discrimination. Pepito est mort. Sa maladie, contrairement à ce que nous pensions, était très grave, mortelle. Je ne l'ai pas revu vivant. Je ne me pardonnerai jamais. Il faut que ma vie change. Je ne peux plus continuer comme ça. Il me reste mes animaux, quelques amis, vous, Marcel, et un seul pays maintenant, la France.
Ne restez pas esseulée, lui écrit Colette. Comme si Joséphine prenait ce message à la lettre, elle épouse la même année un dénommé Jean Lyon, un vrai aristocrate celui-là. Enfin enceinte, elle fait une fausse couche et tous ses rêves de nouveau volent en éclats. Cette union éphémère lui donne en 1937 la nationalité française. Après une tournée triomphale au Brésil, c'est au tour de Paris de l'accueillir comme une reine. Son cœur se remet à battre. Mais la déclaration de guerre en septembre 1939 bouleverse tout. Joséphine va chanter partout sur des estrades de fortune pour les Parisiens et pour les soldats. Elle voudrait faire plus et s'en ouvre à son nouvel agent, le très influent Daniel Marouani. Elle irait jusqu'à donner sa vie pour la France. Et le destin, ce soir de septembre 1939, va cette fois lui sourire.
Allô ?
Mademoiselle Baker ?
Oui, c'est moi.
Je me présente, Mr. Fox. Je suis un ami de votre agent Daniel Marouani.
Oh, je vous écoute, Mr. Fox.
J'aimerais beaucoup vous rencontrer. Je sais que vous êtes très occupé.
Demain ?
Parfait. Je viens chez vous.
Vous avez mon adresse ?
J'ai tout ce qu'il faut. À quelle heure ?
Celle que vous choisirez.
Le lendemain.
Asseyez-vous, je vous en prie, Monsieur Fox.
Je ne m'appelle pas Fox. Je me présente, Miss Baker. Jacques Apté, officier du deuxième bureau et chef du contre-espionnage à Paris.
Oh, enchanté, Monsieur Apté.
Appelez-moi Jacques. Votre agent Daniel Marouani nous a fait part de votre désir de servir ce pays. Nos services ont un besoin urgent de recruter des informateurs parmi les gens célèbres, susceptibles d'aller partout sans éveiller les soupçons.
Je vais partout, dans les casernes, les consulats, au Ritz.
Bien sûr, nous connaissons tous la force de votre engagement. Mais ne le prenez pas mal. Nous avons cependant encore quelques réserves à votre sujet.
Des réserves ?
Oui. Nous craignons qu'une femme, une grande artiste telle que vous, forcément sensible, émotive, ne risque de se briser lors d'une de nos missions. Nous ne voulons pas risquer de vous faire du mal.
Me briser ? Moi, Joséphine Baker. Vous voulez que je vous raconte ma vie ? Je ne suis pas en porcelaine. C'est de l'acier que vous avez devant vous. Je peux faire des tournées partout, servir d'intermédiaire, de paravent. Je sais prêcher le faux pour savoir le vrai. Je sais tirer les vers du nez comme personne.
Quelle ardeur! Comprenez bien que cela n'a rien...
Pardonnez-moi, Monsieur Apté, mais ce pays m'a tout donné. L'accueil, la célébrité, la nationalité, son cœur. Je dois beaucoup à la France, je lui dois tout. Dites à votre hiérarchie que vous avez rencontré une femme qui n'est pas seulement capable de danser nue avec une ceinture de banane, mais qui peut aussi accomplir de grandes choses pour sa patrie, jusqu'à donner sa vie. Sa vie, Monsieur Apté.
Pendant quelques jours, Joséphine Baker, sur le qui-vive, guette la réponse du deuxième bureau, le service de renseignement de l'armée française. Elle s'occupe comme elle peut dans son jardin, un vieux chapeau de feutre noir enfoncé sur la tête. C'est ainsi que Jacques Apté la surprend un beau matin.
Ce chapeau vous va à merveille. Je vous dérange en plein jardinage ?
Il est affreux, mais je l'adore. Alors, Monsieur Apté, ne me faites pas trop attendre.
Bienvenue au deuxième bureau en tant qu'honorable correspondante, Miss Baker. Oh,
quelle joie ! Moi, honorable correspondante, c'est beaucoup plus joli qu'espionne. Ça inspire le respect tout de suite.
Oh, je suis si heureuse. On commence quand ?
Après une petite semaine de formation accélérée, deux types de missions vous attendent, Miss Baker. Vous allez poursuivre vos visites et vos spectacles sur le front et traquer les espions allemands qui l'infiltrent. Les nazis sont partout. Vous continuez vos activités artistiques et mondaines, vous notez et vous transmettez. Nous cherchons des renseignements sur les projets militaires de l'Allemagne et sur une éventuelle entrée en guerre de l'Italie. On m'a dit que vous aviez des contacts à l'ambassade italienne.
Oui, je connais très bien l'ambassadeur. Je joue bien les idiotes et les écervelés avec lui, il adore. Je sais aussi très bien jouer l'étrangère qui ne comprend rien. Ça permet d'avoir beaucoup plus de détails. Vous remercierez le deuxième bureau pour moi. Sûr. Un mois a passé et j'ai transmis mes informations à Jack, enfin, à Monsieur Haptay. Signé Josephine Baker, honorable correspondante. Je prie tous les soirs pour que l'Amérique nous rejoigne et délivre la France. Pour voir défiler bientôt sous les drapeaux de la victoire nos soldats victorieux, les noirs et les blancs. Tous réunis pour la paix contre la ségrégation à jamais.
Josephine Baker, de la Vénus noire à l'honorable espionne, de Pascal Memery, avec Josephine Baker, Aline Bellibi, Paul Collin, Elia Birman, André Daven, Julien Lucas, Marcel Sauvage, Grégoire Mont-Saint-Jean, le comte Giuseppe Abbatino alias Pepito, Julien Frison, le capitaine Jacques Haptay, Léo Dussolier. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Manuel Couturier et Éric Villenfin, assistante à la réalisation Alexandra Garcia-Villa, réalisation Cédric Ossir. Vous écoutez Autant n'emporte l'histoire sur France Inter. On continue de parler de Josephine Baker dans quelques minutes avec mon invitée Hannah Diamond.
Kiss Me in the Morning de Georgia Smith sur France Inter, à la réalisation d'Autant en emporte l'histoire, Lauriane Toulmont, assistée d'Anna Massardier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Gilles Gaillard. Anna Diamond, nous venons donc de quitter Josephine Baker en 1939, peu de temps après la déclaration de guerre et l'engagement donc secret de l'artiste au deuxième bureau. D'abord, comment expliquer la passion de Josephine Baker pour la France, qu'elle soit même prête à donner sa vie pour elle?
Je crois qu'elle a vraiment apprécié la réception qu'elle a eue de la part des Français et surtout des Parisiens. Et elle voulait rendre quelque chose à ce pays qui était responsable de cette carrière extraordinaire qu'elle a pu faire. Carrière qu'elle n'aurait jamais pu faire aux États-Unis au moment de la ségrégation. Et je crois que la fiction a bien montré, malgré ses espoirs et ses attentes, elle pouvait pas se faire accepter là-bas.
Oui.
Donc elle voulait vraiment faire quelque chose pour remercier la France, mais aussi elle comprenait le danger du nazisme.
Oui, elle avait conscience de la menace que représentait Hitler.
Oui, et que elle était mariée avec Henri Léon, qui elle a été naturalisée, comme
elle était française. Oui.
Elle était française et elle savait ce que c'était, l'antisémitisme aussi. Elle l'a vu, elle était voyagée, elle était allée en Autriche.
À Berlin
donc,
aussi,
Et vraiment, elle sentait le besoin de faire quelque chose. Comme on a vu avec d'autres résistants et d'autres étrangers qui ont fait partie de la résistance en France.
Jacques Apted a eu des réticences, malgré tout, à l'engager. D'abord, qu'est-ce que c'est que le deuxième bureau exactement? C'est quoi? C'est du contre-espionnage?
Oui, c'est l'intelligence. Et je crois que les Français ont été un petit peu vivait un peu mal la participation des femmes à cause de Matahari lors de la Première Guerre mondiale.
Oui, elle avait laissé un mauvais souvenir.
Elle a laissé un mauvais souvenir.
Et c'est une femme, une artiste,
aussi.
Donc voilà, c'est risqué, ce sont des femmes frivoles risquent de parler.
Et qu'on ne savait pas trop toujours comment ça allait se passer. Donc je crois qu'Apted, au départ, il fallait le convaincre. Mais je crois que cette scène au Vessiné, au Beauchêne, d'après qu'il le raconte lui, parce que là, on se fie à son livre, il a été très convaincu par Josephine Baker.
Il a été convaincu, ouais.
Donc son engagement, et elle a tenu bon. Je crois qu'il a fait le test, elle pouvait bouger facilement, elle est allée dans les ambassades et puis elle est revenue avec des éléments qui l'intéressaient.
Alors Josephine Baker sera toujours très fière d'avoir participé à la résistance, mais curieusement elle ne donnait pas beaucoup de détails sur ses activités. Je propose de l'écouter interviewée à la télévision, c'est le 26 mars 1975, elle est interviewée à l'occasion de son spectacle à Bobino, ce sera son dernier spectacle. Le journaliste lui demande de raconter sa résistance.
Angleterre, Égypte, partout dans le désert, Afrique du Nord, revenant ici, etc., etc.
Qu'est-ce que vous faisiez?
Ce que je devais faire, et j'en étais très fière de pouvoir le faire.
C'est-à-dire?
Deviner.
Vous chantiez?
Non. J'ai chanté de temps à autre, mais surtout je faisais de la résistance. Parce que j'avais qu'une seule chose en tête, c'est-à-dire d'aider la France de remontrer comme elle était avant et qu'elle n'avait pas perdu pendant le commencement de la guerre, mais c'était un petit moment de malheureux.
Josephine Baker, interviewée donc en mars 1975, elle mourra 3 semaines plus tard. Voilà. Elle est très évasive hein, dans ses propos. Quand le journaliste lui demande « c'était quoi cette résistance ?»« Devinez », elle lui répond. Et elle dit cette chose très jolie, « l'occupation, la guerre, c'était un petit moment de malheur. »
Oui, c'est remarquable. Et c'est vrai qu'elle n'en parle pas. Et c'est justement, c'est mon défi d'essayer vraiment de trier, de suivre le fil des archives.
Oui, Anna Diamond, vous travaillez actuellement sur les archives, vous allez dans les archives du ministère de la Défense, vous allez aussi en Angleterre, aux États-Unis pour essayer de savoir exactement ce qu'elle a fait pendant la guerre, son espionnage, sa résistance.
C'est ça, exactement. Donc, nous avons donc Jacques Apted, il nous a donné le source historique, pour ainsi dire, il a écrit un livre qui s'appelle La guerre secrète des Joséphine Baker, qui donne beaucoup de détails sur ce qu'ils ont fait ensemble. Et il semblerait que sa célébrité leur permettait de passer facilement. Ils commencent donc en France à faire le collecte de renseignements, puis ils vont après en Afrique du Nord où ils montent une filière de renseignements qui sont passés aux Anglais, à la France libre et aussi aux Américains. Donc il y a des liens, il y a un réseau qui se construit. Après novembre 1942, et la libération de l'Afrique du Nord, elle va continuer un travail de renseignement à ce moment-là et collecte les renseignements sur les populations arabes. Et aussi, on pense qu'elle elle surveille un petit peu pour la France libre, pour De Gaulle en particulier, les activités des Français et des Américains. Parce que De Gaulle, il a l'impression qu'il n'est pas entièrement renseigné par des Anglais.
Il n'a pas entièrement confiance dans Churchill.
Et donc et là, elle fait un travail très très important pour De Gaulle. Et ce que j'ai remarqué dans les archives nationales, c'est qu'elle est très très fidèle à De Gaulle après la guerre.
Et est-ce que De Gaulle lui sera fidèle? Est-ce qu'il l'admire?
Ah oui, on voit bien qu'il... à chaque fois, elle lui écrit tous les 18 juin. Tous les 18 juin. Et elle signe « Votre fidèle Joséphine ». Et lui, il répond toujours très gentiment qu'il apprécie tout le travail qu'elle a fait pour lui. Et que non, je crois qu'elle manifeste en sa faveur au mois de mai 1968. C'est une vraie gaulliste.
Elle manifeste à la fameuse manifestation du 30 mai 68. En faveur de Gaulle. Donc après la guerre, elle va recevoir, je l'ai dit, la médaille de la résistance, la Légion d'honneur et la Croix de guerre. Mais est-ce que la France l'a bien soutenue? Parce qu'elle a eu beaucoup de difficultés quand même, des difficultés financières. Elle a eu des dettes. Est-ce que la France a été à la hauteur de la reconnaissance?
Ben je ne sais pas, parce qu'après la guerre, elle est très déçue que les choses ne s'arrangent pas. Donc elle décide d'un nouveau projet, qui est son tribut arc-en-ciel, qui est dans un but de montrer que tout le monde peut vivre ensemble, de n'importe quelle origine et quelle religion. Et elle élève ce groupe d'enfants qu'elle adopte.
12 enfants, dans son château. Incroyable, c'est une générosité.
Et cet engagement antiségrégationniste va lui donner le mérite d'être auprès de Martin Luther King pour la marche de Washington en 1963.
Oui, on la voit en 1963 prononcer un discours donc à côté de Martin Luther King, et elle est dans cet uniforme de l'armée française, cette résistante, c'est assez extraordinaire. Anna Diamond, qu'est-ce que la France honore en la faisant entrer au Panthéon pour vous?
Ben, on honore vraiment une femme remarquable, courageuse, une femme noire qui a pu se faire adopter par ce pays incroyable.
Merci beaucoup Anna Diamond, vous êtes l'autrice d'un article sur Joséphine Baker, The Starlet Spy, disponible sur internet, et grâce à l'aide du Laverholm Trust, vous préparez un livre sur la Seconde Guerre mondiale de Joséphine Baker. À lire également la biographie de Marcel Sauvage, Les Mémoires de Joséphine Baker, publiée en 2006 chez Dilecta, et celle de Ian Wood, La Folie Joséphine Baker, éditée au Serpent à Plumes. Et je signale le livre de l'historienne Christine Barr, Les Garçonnes, consacré aux garçonnes des années folles, une mode lancée en partie par Joséphine Baker, publiée aux éditions Autrement. Autant n'importe l'histoire, c'est fini pour ce soir. Une émission que vous pouvez réécouter ou podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons dans l'Algérie de la colonisation française en compagnie d'un personnage insolite, le magicien Robert Houdin, celui qui, dans la seconde moitié du 19e siècle, était considéré comme l'inventeur de la prestidigitation moderne, fut appelé en Algérie par l'armée française pour réaliser des spectacles et surtout pour tenter à coups de baguette magique de contrecarrer l'influence des marabouts locaux. Robert Houdin, un sorcier blanc en Algérie, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.